Après les températures négatives de la nuit, vous allez avoir une journée avec de l'alternance éclaircies et nuages et des températures qui resteront fraîches au maximum. Vous aurez entre 9 et 11 degrés, restez couverts. Côté actualité, on retrouve Isabelle Rose, les viticulteurs sur le pont dans l'Yonne pour protéger les vignes du gel.
Notamment dans le Chablisien et l'Auxerrois où les températures sont descendues cette nuit en dessous de zéro. Du coup, plusieurs domaines ont mis en route leur système de protection. C'est le cas par exemple à Maligny pour le domaine Séguineau-Bordet. Bonjour Jean-François Bordet.
Bonjour Isabelle.
Comment s'est passée la nuit dans les 20 hectares de vignes que vous exploitez ?
Une nuit comme d'habitude, c'est-à-dire une nuit compliquée. Quand on a des fortes températures en dessous de zéro, c'est une nuit compliquée, comme je viens de le dire, parce qu'il faut mettre tous les moyens pour essayer de sauver un maximum de récoltes. Donc nous, sur Maligny, on protège, donc les 20 hectares sont protégés par différents systèmes de protection. Le premier, qui est le plus ancien, c'est l'aspersion. Ensuite, on a des câbles chauffants. Et puis dernièrement, en Cuma, sur Maligny, on a fait avec nos collègues une installation de tour anti-gel. Donc, tous les systèmes ont été mis en fonction à partir de 22h, donc dimanche soir. Donc, une très longue nuit.
Alors, le soleil est désormais levé, il va un peu réchauffer les vignes. Vous pensez avoir évité le pire? Quelle est la situation ce matin?
La situation, c'est toujours le matin à 8h. On peut pas la décrire. Hein. En fait, les dégâts, on pourra les constater que dans l'après-midi, parce qu'en fait, c'est le soleil qui va brûler donc les bourgeons ou les feuilles, puisque la sève, les bourgeons n'ont pas été alimentés par la sève, hein, du gel. Donc c'est là qu'on va pouvoir constater les dégâts. Donc là, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. Bon, après, on sait que l'aspersion et les câbles chauffants, on est plutôt efficace entre 85 jusqu'à 100% d'efficacité. Donc là, je pense que c'était quand même une... On a eu des gelées plus importantes, hein, en 2021 ou 2017. Donc là, je pense que là-dessus, je suis assez confiant. Sur les tours anti-gel, on va dire que c'est vraiment la première année où on peut tester notre nouveau système. Donc je pourrais le dire que demain ou après-demain.
On annonce...
Et en plus, oui. Et en plus, la prochaine nuit est encore froide. Donc, la prochaine nuit est encore annoncée froide. Donc,
c'est ce que j'allais vous dire. On annonce la nuit prochaine des températures qui devraient une nouvelle fois descendre en dessous de zéro. En tout cas, bon courage. Merci Jean-François Bordet.
Les EHPAD publics vont-ils être contraints de supprimer des postes dans l'Yonne?
C'est ce que craint en tout cas le groupement des EHPAD du département qui alerte les autorités sur ce risque. Ils ont écrit au conseil départemental et à l'agence régionale de santé en janvier, mais n'ont reçu aucune réponse. Les directeurs de ces établissements pointent notamment du doigt les revalorisations salariales accordées aux employés depuis 2020, qui selon eux ne sont pas suffisamment compensées. Et à tout ça s'ajoute un contexte global particulièrement difficile, explique Joanne Pasquier, administrateur des maisons GEPI et directeur des EHPAD de Pont-sur-Yonne et Villeblevin.
Oui, l'inflation, c'est quelque chose d'assez compliqué à encaisser. Si je vous prends un exemple, sur le département de l'Yonne, nos prix de journée hébergement ont augmenté en moyenne sur les 7 ou 10 dernières années d'environ 7%, alors que l'inflation sur les 10 dernières années de 15%. Donc ça montre bien que c'est aux établissements de prendre en charge la différence. On a également les augmentations des tarifs d'énergie, de gaz et d'électricité, qui ont un gros impact sur les budgets de nos établissements. Ça peut avoir d'autres conséquences. Les établissements peuvent rencontrer des problèmes de trésorerie. Ça veut dire qu'on reporte des paiements de charges et de factures pour être sûr que la trésorerie puisse suivre. Aujourd'hui, personne n'envisage de supprimer de poste parce qu'on essaye de trouver des solutions pour ne pas avoir le faire, pour maintenir l'accompagnement dans nos établissements. Ce qu'on veut, c'est pouvoir alerter vraiment les pouvoirs publics, à dire que, attention, si on continue à dégrader nos situations financières de cette façon, ça va dégrader l'accompagnement de nos résidents.
À Tanlay, dans le Tonnerrois, le corps d'une femme âgée de 85 ans a été retrouvé dans le canal de Bourgogne par les pompiers. Un promeneur l'a repéré vers midi et demi hier avant de donner l'alerte. 6 pompiers ont été mobilisés pour la repêcher, mais elle n'a pas pu être réanimée. Les circonstances exactes du drame restent pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire après le décès d'une femme de 27 ans ce week-end à Blois, dans le Loir-et-Cher. Elle a été éjectée d'un manège lors d'une fête foraine. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues, mais la maire de Blois assure que tous les documents relatifs à la sécurité de l'installation étaient en règle.
Une randonnée pour découvrir l'histoire de la résistance dans l'Yonne.
Entre Charentenay et Bazarne, au sud d'Auxerre, le maquis de la Souille a été créé début 1944 pour ralentir l'avancée des Allemands vers la Normandie en amont. amont du débarquement. 11 résistants y ont été tués dans une attaque allemande le 9 juillet. Et à l'occasion de la commémoration des 80 ans de ces événements, l'association L'Épi de Charentenay organisait hier une randonnée commémorative pour marcher sur les pas des maquisards. Parmi les participants, de nombreux habitants des villages voisins, pas toujours bien informés d'ailleurs sur ce qui s'est passé juste à côté de chez eux.
Je connaissais vaguement, mais ça va peut-être me permettre d'éclaircir quelques points. Ça permet de voir des choses qu'on ne soupçonne pas, quoi.
Non, je connaissais pas. On apprend tout, à tout âge. Oui, oui, c'est important.
C'est le devoir de mémoire. C'est en quelque part les honorer que de retracer le circuit qu'ils ont emprunté à l'époque pour libérer la France.
Ça montre aux jeunes un peu ce qui s'est passé à l'époque. Et puis voilà, ça fait découvrir un peu le village. Il faut que ça reste quand même dans les mémoires de tout le monde. De toute façon, après, c'est quand même l'histoire. Donc voilà, il faut respecter les anciens.
J'espère aussi que les jeunes qui sont là pourront en reparler.
Et pour tout renseignement sur la résistance dans Lyon, vous pouvez consulter les travaux de l'ARORI, l'association pour la recherche sur l'occupation et la résistance dans Lyon.
On passe au sport et la GIA doit vite repartir au combat avant la réception de Laval demain soir.
Oui, car après deux défaites de suite, les Auxerrois, toujours leaders de Ligue 2, voient leur avance sur leurs poursuivants se réduire. D'autant qu'après leur victoire ce week-end, Angers, le deuxième, n'est plus qu'à 3 points d'Auxerre et surtout Saint-Étienne est revenu à 4 points de la GIA. Il reste 5 matchs à jouer et seuls les deux premier accède à la montée directe. Et dans l'histoire de la Ligue 2, c'est déjà arrivé que des équipes longtemps en tête se fassent peur jusqu'à la fin, Nicolas Fillon.
Le dernier exemple en date, c'est Le Havre qui n'a pu valider qu'à la dernière journée sa montée en même temps que son titre de champion. Incontestablement la meilleure équipe du championnat dont elle était en tête depuis la 14e journée, la formation normande s'était fait peur avec deux défaites suivies d'un nul pour terminer sur un succès salvateur. Sur les 20 dernières saisons, une seule équipe leader de la Ligue 2 à 5 matchs de la fin n'a pas réussi à monter en Ligue 1. C'est Brest, exercice 2016-2017. À cause notamment d'une série de 3 revers consécutifs. À l'époque, il y avait sur le banc l'ancien entraîneur iconais Jean-Marc Furlan et dans la cage brestoise, l'actuel gardien auxerrois Donovan Léon. Pour éviter de connaître le même sort, la GIA version 2023-2024, qui est en tête depuis mi-janvier, va devoir puiser dans ses ressources, elle qui semble dans le dur, surtout physiquement.
Agi à Laval demain au stade Abbé Deschamps, un match à suivre sur France Bleu Auxerre dès 20h30, coup d'envoi à 20h45. Et on en parle dès ce soir dans 100% Agia, juste après le journal de 18h. Toujours en football, les footballeuses de l'Agia Stade Auxerrois sont toujours invaincues. Elles ont battu hier Selonger 1-0 et confortent leur place de leader de Régional 1. Et puis en rugby, notez l'exploit du RCA, relégable depuis plusieurs mois. Les Auxerrois sont sauvés in extremis hier lors de la dernière journée de championnat de Fédéral 2 à Plouzané. Victoire face à leur concurrent directo maintient 32-31. Il est 8h08.